France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ce matin, à l'aube, l'aviation israélienne frappait une installation nucléaire à Ispahan, en Iran, et un drone iranien a frappé un immeuble résidentiel au nord d'Israël sans faire de victimes. Voilà 9 jours qu'Israël a déclenché au Moyen-Orient une nouvelle guerre en attaquant en Iran plusieurs sites névralgiques et en décapitant l'appareil militaire et informationnel du régime des Mollahs. Une guerre préventive face à une menace existentielle, affirme le Premier ministre israélien, qui bénéficie ainsi du très large soutien de son opinion publique et détourne l'attention de la question des otages et de cette autre guerre qui continue à Gaza. Jusqu'où Benjamin Netanyahou a-t-il averti ou coordonné une opération d'une telle ampleur avec le grand allié américain ? Aucune des deux parties ne s'en targue. Si l'objectif est de détruire l'essentiel de l'arsenal nucléaire et balistique iranien, il faudra l'implication directe d'avions furtifs américains et de leurs bombes à forte capacité de pénétration. Si l'ambition déclarée est aussi de déclencher dans cet immense pays de 90 millions d'habitants la chute d'une théocratie impopulaire, les réticences, sinon l'opposition de Washington, sont fort probables, tant la hantise des guerres d'Irak et d'Afghanistan a cimenté l'électorat MAGA et alimenté la dernière campagne présidentielle. Après avoir réclamé la capitulation sans condition de Téhéran, Donald Trump, qui se flatte d'aimer prendre ses décisions à la dernière minute, a annoncé un délai de 2 semaines. S'agit-il de parvenir à un deal, de freiner les ardeurs de Jérusalem, de se concerter avec les partenaires arabes qu'il a tant flatté lors de sa tournée au Moyen-Orient, fût-ce au risque d'offrir une fenêtre au régime iranien pour tenter des représailles ailleurs qu'en Israël ? Si l'ambiguïté du président américain peut être une arme, l'indécision et l'imprévisibilité déstabilisent tous les protagonistes. Les ministres français, britanniques et allemands ont rencontré hier leur homologue iranien. Les Européens ne servent à rien, a commenté aussitôt Donald Trump. Quels sont donc les scénarios possibles pour Israël et pour l'Iran ? Ni la Chine ni la Turquie n'ont offert leur soutien. La Turquie prévoit une nouvelle vague migratoire. Tout le Moyen-Orient est frappé d'incertitude. Dans quelques jours, les Occidentaux doivent se retrouver à La Haye pour le sommet annuel de l'Alliance Atlantique en présence de Donald Trump. Guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, sera-t-il plus difficile encore de définir des priorités communes ? En tout cas, seuls les Arabes se font entendre et partout la mort et les souffrances des victimes. Où en est-on ce matin ? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre grâce à Dorothée Schmitt. Dorothée, vous êtes la responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Martin Cancé, directeur du bureau de Paris du German Marshall Fund. Et Clément Terme, chargé d'enseignement à l'Université Paul Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris. Clément, je commence avec vous. Il y a donc eu une attaque israélienne à l'aube ce matin sur un site nucléaire près d'Ispahan, cette ville, ce site magnifique qui est donc au sud, ouest de Téhéran. Un drone iranien a attaqué. Donc, comment comprendre la liste des cibles? D'abord, côté israélien.
Oui, d'abord, Christine, les cibles étaient strictement militaires. Il s'agissait d'éviter que la menace balistique iranienne, que la réponse iranienne sur Israël soit rapide et soit plus forte que les signalements stratégiques qui avaient eu lieu lors des opérations que l'Iran appelle « promesses véridiques » numéro 1 et 2 au mois d'avril et d'octobre 2024. Là, on est, du point de vue militaire iranien, dans le cadre de l'opération véridique numéro 3. Et donc, l'idée d'Israël était d'empêcher que cette opération soit plus meurtrière et que les cibles soient plus élargies en Israël de la part des militaires iraniens. Donc l'idée, c'était vraiment de cibler les lampes de rançon des missiles, d'éliminer tout le commandement de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, qui prend les décisions en termes de lancement de missiles et de drones. Et donc, les cibles étaient très claires, et en même temps, les cibles nucléaires. Donc, il s'agissait d'éviter militairement d'utiliser, finalement, de réaliser ce rêve du Premier ministre Netanyahou, d'utiliser l'option militaire pour régler militairement la question nucléaire iranienne, puisque, dans cette perspective, les missiles peuvent servir à transporter dans l'avenir des ogives nucléaires. Ensuite, au bout du cinquième jour, on a vu des cibles touchant le secteur énergétique, et c'est ça qui est très sensible du point de vue des pays de la région. Là, on a vu le champ gazier de South Pass, qui est au sud du pays, qui a été touché. On a vu une raffinerie, également un dépôt de carburant. Et c'est à partir de ce moment-là, notamment le dépôt de carburant, parce que ça peut jouer sur les prix de l'essence. Et lors des dernières grandes manifestations en novembre 2019, c'était ça qui avait causé des troubles, en tout cas du point de vue du régime, et de grandes manifestations à l'échelle nationale contre le régime et pour le changement de régime. Et donc, le dernier type de cible, je m'arrête là, c'est l'appareil de sécurité interne. Donc, le chef des services de renseignement des gardiens de la Révolution, les locaux de la police, qui ont été visés également hier, et puis à partir du premier jour, et également le ministère des renseignements, la télévision, puisque la télévision IRIB est liée aux services de sécurité, et notamment pratique les confessions forcées. Donc, c'est pas une télévision indépendante, c'est une télévision liée à l'appareil de sécurité. Donc, certes, l'idée, c'était vraiment de cibler la propagande et l'appareil de sécurité.
On sait aussi que le régime iranien, qui tient bon, il ne semble pas qu'il y ait des fractures internes, d'ailleurs, le régime a coupé la population du monde. Hein. Il n'y a plus du tout d'Internet, et il y a eu une grande manifestation de soutien au régime hier à Téhéran, Clément.
Oui, tout à fait, avec une déclaration très intéressante de l'imam de la prière du vendredi à Téhéran, qui disait qu'on ne négocierait pas sous les bombes. Donc c'est très important, parce que c'est aussi à ce moment-là que le régime parle à sa clientèle, parle à ses supporters. On estime à 10 à 15% ce soutien, donc entre 8 et 12 millions de personnes qui seraient en soutien au régime. Mais le prix de cette cohésion interne, si vous voulez, c'est d'avoir aussi des problèmes avec l'ensemble de la population, la majorité, qui souhaite la paix. Donc la coupure d'Internet vise la population qui, elle, pourrait être tentée d'identifier des cibles, d'utiliser Internet aussi pour communiquer avec le monde extérieur, et qui gênerait finalement le régime dans sa campagne de propagande vis-à-vis de l'Occident notamment. Et on voit que, par contre, ceux de l'intérieur du régime, eux, utilisent Internet. Donc la coupure est totale pour la population, ou quasiment totale, mais pour ceux qui sont à l'intérieur du régime, et pour le fonctionnement aussi des organes de l'État, par exemple certains services bancaires, même s'il y a des dysfonctionnements à Téhéran en ce moment, il y a aussi des possibilités de garder une part d'Internet ouverte. Donc le régime a perfectionné depuis la dernière coupure en novembre 2019 déjà, lors des manifestations contre le prix de l'essence, a perfectionné sa capacité à moduler, à calibrer ses coupures Internet pour prévenir toute manifestation à l'intérieur du pays, tout en gardant le contrôle du réseau pour eux-mêmes.
Bruno Tertrais, cela veut dire évidemment que le régime a commencé évidemment par le guide suprême, Khamenei, suit à la minute ce qui se passe à Washington, sinon dans l'esprit même du président américain qui a déclaré avant-hier « Personne ne sait ce que je vais faire ». Et ça, il s'en flatte et il a annoncé 2 semaines de délai. C'est une plaisanterie qui court à Washington, Bruno, parce que Donald Trump annonce 2 semaines de délai sur tous les sujets, sur Gaza, sur l'Ukraine, sur les droits de douane, etc. Donc comment comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait quand même en coulisses des négociations entre l'administration Trump et le régime iranien?
Alors effectivement, Donald Trump dit toujours deux semaines, mais attention, parfois, ses ultimatums ou ses deadlines, il s'y tient. Ce n'est peut-être pas totalement par hasard que les frappes israéliennes ont commencé 24 heures après l'expiration d'une forme d'ultimatum qui avait été donnée par Donald Trump, c'est-à-dire exactement 60 jours après. Ensuite, sur Trump, il est tout à fait possible que lui-même ne sache pas, et j'en suis... pour ma part, assez intimement convaincu, ne sache pas encore ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire. Avec lui, on ne sait jamais de quel côté la pièce de monnaie va tomber. Il s'en réjouit parce qu'il est le centre de l'attention mondiale, mais je ne serais pas surpris qu'il n'ait pas encore pris sa décision d'intervenir ou pas, d'entrer directement dans la bataille ou pas, car il fait face à un dilemme. D'un côté, ce n'est pas un homme de conflit, enfin en tout cas de conflit militaire, parce qu'il estime tout simplement que la guerre, c'est moins bon pour le business que la paix, parce qu'il a été élu sur une plateforme qui, en gros, disait « moi, je ne commencerai pas de nouvelle guerre au Moyen-Orient », et parce qu'il veut, dit-on, le prix Nobel de la paix. Donc pour toutes ces raisons, il hésite, mais d'un autre côté, eh bien, il peut être tenté d'être celui, enfin en tout cas, il peut être tenté d'essayer d'être celui qui a, entre guillemets, réglé définitivement le problème nucléaire iranien, fermé les guillemets, et donc d'avoir un rôle historique qu'aujourd'hui, quelque part, Netanyahou lui vole la vedette. J'emploie des expressions assez légères, assez triviales, mais je crains que ce Donald Trump, en fait, fonctionne exactement comme cela. Alors, est-ce qu'il y a des discussions entre les États-Unis et l'Iran? Je dirais qu'il serait très surprenant qu'il n'y ait pas, via des intermédiaires, des canaux de communication, mais ça ne veut pas dire une négociation non plus. Il n'est pas concevable que la tentative de reprise de négociation sur le nucléaire qui avait lieu depuis plusieurs semaines ait encore lieu aujourd'hui. Tout ça pour dire que M. Trump nous réserve des surprises. Alors, ça peut avoir effectivement quelques vertus. Quand on laisse son adversaire potentiel dans l'incertitude, eh bien, c'est déstabilisant pour lui. Et donc, cela peut avoir, encore une fois, quelques vertus. Mais aujourd'hui, je crois malheureusement que c'est littéralement une question très personnelle. Il aime être au centre de l'attention et il n'a pas encore décidé véritablement ce qu'il veut faire. Un dernier mot, quand même. Parce que c'est ce qu'il doit prendre en compte aussi, c'est l'avis de ses alliés ou de ses quasi-alliés du Golfe Persique. Et on sait tous que certains dirigeants du Golfe se réjouissent de ce qui se passe actuellement en Iran et en même temps sont très ambivalents parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, que le conflit s'étende sur leur territoire.
Dorothée Schmidt, les Européens... Donald Trump, comme vient de le dire Bruno, veut garder la vedette à tel point qu'il a balayé d'un revers de main les tentatives des ministres étrangers français, britanniques, allemands qui ont rencontré hier à Genève leur homologue iranien pour faire pression sur Téhéran de retourner à la table des négociations avec les États-Unis. Et Trump dit « l'Iran ne veut pas parler à l'Europe, il ne veut parler à nous ». Que faut-il en penser ?
Alors, effectivement, ce qui est assez préoccupant de mon point de vue, c'est de savoir qu'on est dans une phase militaire qui n'a pas de fin, avec effectivement aujourd'hui Benjamin Netanyahou qui annonce que lui aussi pense que les opérations en Iran vont prendre du temps. Donald Trump qui se donne deux semaines, alors que du point de vue du fonctionnement de l'ensemble de la région et de l'impact, y compris économique, qui peut avoir des retombées pour nous. La situation est tout à fait catastrophique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les Israéliens, aujourd'hui, ont réussi une sorte de retournement diplomatique, puisque le régime iranien n'a pas d'amis, c'est ce qu'on voit manifestement. Est-ce que, effectivement, les régimes arabes du Golfe se réjouissent de voir tomber ce régime ? C'est plus compliqué que ça, puisqu'ils étaient en pleine réconciliation ou tentative de réintégration de l'Iran. Évidemment, c'est ce qui fait le plus peur aux Saoudiens, c'est de se retrouver en guerre avec les Iraniens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne rejoignaient pas ce fameux accord d'Abraham, qui était cette tentative de normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Et finalement, aujourd'hui, la diplomatie, elle avait été... prise en otage, je dirais, par Donald Trump. Il ne faut pas oublier que la négociation avec l'Iran, au départ, c'était un format multilatéral. Ce qui avait fonctionné quand on a eu un accord sur le nucléaire iranien en 2015, c'était un format où on avait effectivement les Américains, les trois Européens qu'on voit encore aujourd'hui en liste, donc Allemagne, France et Royaume-Uni. Et puis, on avait aussi les Russes et les Chinois. Et aujourd'hui, ce cadre multilatéral, il a volé en éclats. C'est Trump qui a choisi de tuer cet accord une fois qu'il est arrivé aux affaires aux États-Unis. Et ensuite, la diplomatie américaine a voulu recommencer à négocier en bilatéral avec l'Iran. Et là, on est dans une impasse. Alors, les Européens arrivent et disent on va essayer de limiter les dégâts, donc on va se poser un peu en intermédiaire potentiel. Ce que vous venez de dire, Christine, est extrêmement intéressant, parce qu'ils se sont quand même coordonnés avec Marco Rubio avant de parler avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Et les Iraniens sont sortis de la réunion en disant qu'ils étaient prêts à reprendre les négociations avec ces Européens, mais qu'ils étaient prêts à les prendre s'il y avait enfin des frappes israéliennes.
Pardon, je vous interromps. Oui, les Iraniens disent, ce qui est assez logique, qu'ils ne veulent pas reprendre les négociations tant que qu'Israël poursuit ses attaques. Je signale d'ailleurs en passant que Israël a aussi frappé une cellule du Hezbollah au sud Liban, et affirme ce matin avoir éliminé le commandant iranien chargé de la coordination avec le Hamas à Gaza. Martin Quincé, on suit évidemment aussi ce qui se passe dans l'entourage de Donald Trump. Donald Trump qui, semble-t-il, a exclu de la réflexion sur la réponse à donner à cette guerre Israël-Iran. Il en exclut, semble-t-il, le patron du Pentagone, except. Il en a exclu aussi la dame qui coiffe tout le renseignement américain, qui, elle, avait dit en gros, en mars dernier, que l'Iran n'était pas prêt, en fait, de fabriquer véritablement des armes nucléaires. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui se passe dans l'entourage de Trump ?
Petit groupe qui semble aujourd'hui le plus influent autour de Donald Trump sur le sujet inclut le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le chef d'état-major des armées américaines Dan Kane et le directeur de la CIA John Ratcliffe, qui par ailleurs s'est plus ou moins opposé à certaines déclarations de Tulsi Gabbard, donc cette personne qui dirige qui est à la tête du renseignement national aux États-Unis. Pour Donald Trump, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension aussi opportuniste de son approche. Lorsque, au lendemain des attaques israéliennes, le premier communiqué américain, qui était publié par le secrétariat d'État, insistait sur la nature unilatérale des attaques israéliennes et le fait que les États-Unis n'étaient absolument pas impliqués dans cette attaque. On sentait bien que l'administration, vendredi dernier, souhaitait prendre une certaine distance pour voir ce qui pouvait ensuite arriver. Et à mesure que l'opération israélienne parvenait à atteindre un certain nombre d'objectifs et s'avérait un succès militaire, on a vu Donald Trump prendre la parole de plus en plus fréquemment pour dire « non seulement j'ai coordonné cette attaque, mais j'ai moi-même donné... le feu vert aux Israéliens. Cette semaine, il a même dit « Nous avons aujourd'hui la domination aérienne au-dessus du ciel iranien ». Donc, il s'implique de plus en plus à mesure qu'il lui paraisse qu'un succès est possible. La deuxième dimension, c'est qu'il est toujours très attentif aux sondages et aux vibrations de sa base électorale. Là-dessus, je pense qu'il faut faire un point rapide, parce que on voit, notamment sur les réseaux sociaux, autour d'un certain nombre d'influenceurs de la branche MAGA, des divisions au sein du Parti républicain. On les voit autour de Tucker Carlson, donc notamment. Mais quand on regarde les sondages qui ont été publiés cette semaine, on a une très large majorité républicaine, plus de 80%, qui reste absolument opposée à l'idée que l'Iran puisse acquérir une arme nucléaire. Et on a plus de 65% des républicains qui soutiennent une frappe américaine pour empêcher l'Iran d'acquérir cette arme. Donc je pense que la division du Parti républicain sur ce sujet ne doit pas non plus être exagérée à ce stade. Les choses peuvent évidemment évoluer. Moi, je suis intéressé de voir si Donald Trump prend bien 2 semaines pour prendre une décision, si le débat américain peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense qu'il faut noter que les sondages, pour le moment, sont plutôt alignés avec la position de Donald Trump, donc de refuser un Iran nucléaire. Et le dernier point, c'est que Donald Trump a dû réconcilier 2 aspects dans son identité politique. Le premier, c'est, comme ce qui a été dit précédemment, il a voulu être le candidat de la paix durant l'élection présidentielle, celui qui allait empêcher la Troisième Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, il l'a rappelé, le vice-président l'a aussi rappelé, c'est quelqu'un qui s'est toujours opposé à avoir un Iran nucléaire. Et aujourd'hui, la communication de la Maison-Blanche met en avant la cohérence de la position de Donald Trump sur le sujet, déjà sous sa première administration, mais même avant, où il était très critique des négociations de l'administration Obama. Je pense que la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que il s'est à plusieurs reprises opposé à ce que Tulsi Gabbard, donc la directrice des renseignements nationaux, a avancé en mars et puis plus récemment l'idée que l'Iran ne serait pas prêt d'acquérir l'arme nucléaire. Lui a déclaré publiquement que c'est une question de semaine et que Tulsi Gabbard a tort de prendre cette position.
Oui, il a même dit ce qu'elle dit m'est complètement égal. Clément Terme, du point de vue du régime iranien, en fait, le régime qui est au pouvoir, il faut le rappeler, depuis 1979, est pris au piège de ses propres ambitions nucléaires après avoir, pendant toutes ces années, assumé une stratégie ni guerre ni paix, en menaçant d'abord ses voisins sunnites, en cultivant l'obsession de détruire Israël et en édifiant ce qu'on a appelé l'axe de la résistance, donc avec ses milices du Hezbollah, le régime syrien, le Hamas. Donc ce régime est acculé maintenant.
Oui, il est dans une impasse, mais ça ne veut pas dire que le changement de régime serait aussi décisif en termes de modification des ambitions nucléaires iraniennes. Il faut se rappeler que c'est l'ancien régime de Mohamed Reza Pahlavi qui a accéléré le programme nucléaire après le choc pétrolier de 1973 et notamment après l'essai indien de 1974. Et déjà à l'époque, en 1975, les renseignements américains disaient que l'Iran est un état du seuil et que s'il le décide, il pourrait se doter de systèmes d'armes nucléaires. Par contre, pour Israël, un régime qui serait moins hostile à ses intérêts, qui émergerait de cette guerre, serait un résultat politique positif, puisque, à l'époque du Shah d'Iran, Israël n'était pas préoccupé particulièrement par ce programme nucléaire-là, qui pourtant avait aussi un périmètre qui était peut-être pas uniquement civil. Donc le régime est acculé aujourd'hui, mais il a encore quand même cette base, il a l'utilisation aussi des armes, la violence à l'intérieur du pays, il n'a pas encore perdu le contrôle du territoire. Donc, et les alternatives, le scénario du pire, c'est le chaos. On a tous en tête les références historiques de l'Irak ou aussi de la Syrie, mais il faut quand même dire que l'Iran est une société différente et qu'il y a aussi une société civile qui est structurée et que les alternatives dans la société iranienne existent. Donc il n'y a pas forcément un scénario du pire qu'il faut anticiper. En tout cas, la question, c'est pour Israël, je pense aujourd'hui, comment obtenir par la force ce qui n'a pas pu être obtenu par la diplomatie. Et donc les Européens, et c'est ça qui est intéressant, ont évolué dans leur position par rapport à l'accord de 2015, et aujourd'hui ont accepté finalement les paramètres de Trump, même numéro 1, comme ça a été évoqué précédemment, qui voulait un accord élargi. Donc la question nucléaire, contrôle du programme balistique et fin du soutien aux groupes non étatiques dans la région comme le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis au Yémen. Et donc les Européens ont présenté cette feuille de route à la République islamique. Alors est-ce que le guide suprême peut accepter cette proposition? Je dirais oui, si la survie du régime est en jeu. À ce moment-là, il y a une forme de pragmatisme réactif qui se met en place dans la prise de décision à Téhéran. Plutôt que de tout perdre, ils préfèrent sacrifier leurs idéaux, entre guillemets, hérités de l'ayatollah Khomeini pour survivre. Mais en même temps, une fuite en avant sécuritaire n'est pas à exclure. C'est-à-dire que plus la République islamique est acculée, plus le risque de contagion régionale existe. Donc on pense à des tirs, parce que le stock de missiles n'est pas épuisé pour les missiles à courte portée. Et ces missiles-là sont en grand nombre, en tout cas avant les frappes israéliennes, dans les réserves, dans les stockages iraniens. Et donc ils pourraient cibler les bases militaires américaines dans la région. Et là, ça pourrait changer la perception de l'opinion publique américaine à ce moment-là. Et l'autre option, c'est le détroit d'Ormuz, même si pour l'instant, les capacités d'exportation de pétrole iraniennes n'ont pas été touchées, à ma connaissance, par les frappes militaires israéliennes. Mais si c'était le cas, là, ça serait aussi un tournant, puisque l'Iran, à ce moment-là, frapperait aussi les infrastructures de la région. Donc le potentiel pour une escalade existe également.
Dorothée Schmidt, ce potentiel pour une escalade, il suffit de regarder une carte, ce qu'on ne peut évidemment pas faire à la radio, mais on voit qu'il y a des bases militaires occidentales, y compris françaises, dans tout le Moyen-Orient. Il y a 40 000 soldats américains, dont 2 500 en Irak. Et on a vu Donald Trump, le mois dernier, faire cette tournée triomphale au Moyen-Orient, qui était en même temps une levée de fonds pour les États-Unis, et il faut bien le dire aussi pour sa famille. Mais ça semblait augurer en fait une nouvelle ère des rapports avec le monde sunnite, surtout l'Arabie saoudite, les Émirats. Donc comment le soutien de l'administration américaine à Israël peut-il être interprété ce matin ?
Oui, c'est très intéressant que vous pointiez cette contradiction, puisque finalement, on peut avoir une vision aussi, enfin, on pouvait avoir, avant cette extension des fronts d'Israël, une vision optimiste de l'avenir du Moyen-Orient, si on écoutait simplement Donald Trump, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui ont signé des contrats pour 600 millions de dollars. Alors, l'Arabie Saoudite, c'est le premier pays où Trump s'est rendu après sa réélection. Ces annonces un peu lunaires sur l'idée de la Riviera Gazaoui. Donc on a une façon de voir l'avenir du Moyen-Orient qui pourrait être une sorte de grande zone de développement, de consommation, un vaste Dubaï. Et puis la réalité, c'est quand même une réalité de guerre généralisée. Et aujourd'hui, une inquiétude extrême de tous les pays qui se situent entre Israël et l'Iran. Les espaces aériens qui sont soit fermés, soit perturbés entre le Liban, la Syrie et l'Irak. Et donc l'idée d'une suspension complète du sort de la région tant que on ne sait pas exactement comment va finir cette opération israélienne. Et ce qui est assez intéressant dans ce contexte, c'est de s'interroger sur ces objectifs d'Israël qui évoluent de la même manière que Martin a décrit tout à l'heure ce qui pense être l'espèce de dialectique interne du système américain ou de ce que pense Trump lui-même. Donc si on se limite à la géopolitique en excluant la question de la survie personnelle de Benjamin Netanyahou, survie politique, on a d'abord cet objectif d'assurer la sécurité d'Israël après le 7 octobre. Donc 7 octobre, trauma fondateur. Et là, on a cette guerre qui commence contre le Hamas, le Hezbollah, donc guerre asymétrique contre des acteurs non étatiques. Et c'est une guerre qui est menée à Gaza, qui est menée au Liban, qui est menée en Syrie. Et il y a encore des frappes israéliennes en Syrie très régulièrement ces derniers mois. Et l'ouverture aujourd'hui du
quatrième fond contre cet ennemi existentiel. Mais pardon, Dorothée, je vous interromps.
Oui.
Mais pardon, je vous interromps. Vous parlez de la Syrie. Il est intéressant de voir que le nouveau maître de la Syrie n'a pas condamné
oui,
la guerre.
Absolument, c'est le seul pays arabe qui n'a pas condamné les frappes israéliennes, parce que c'est un pays qui sort d'un moment extrêmement long de soumission aux visées politiques de l'Iran et que ce nouveau régime est un régime sunnite, qui est un régime qui aujourd'hui veut essayer de remettre en place une forme de territoire unifié qui soit en paix avec ses voisins. Et donc, c'est un régime qui, alors qu'il est dirigé par un ancien djihadiste qui aujourd'hui se montre comme une sorte de nationaliste un peu consensuel, je sais que ça semble très bizarre d'entendre ça, mais enfin, c'est quand même Ahmed Shara, l'actuel dirigeant syrien, a dit qu'il était prêt à envisager la normalisation avec Israël. Mais si je reviens aux objectifs israéliens, donc assurer la sécurité, ouverture des quatre fronts, détruire le programme nucléaire, donc ça c'est un objectif qui est très connu. Aujourd'hui la question c'est celle du changement de régime avec quand même quelque chose qui est sans arrêt évoqué par Netanyahou, cette espèce de rêve un peu fou que ce soit Israël qui fasse changer le régime iranien. Et au-delà de ça, l'idée de remodeler le Moyen-Orient, qui est quelque chose que Netanyahou également évoque très régulièrement. Et là, on a quand même un édito dans le Jerusalem Post, ce quotidien conservateur, qui, il y a quelques jours, appelle les États-Unis à organiser la partition de l'Iran. Donc on a une sorte de politique du fait accompli israélien qui jusqu'à présent se limitait un petit peu autour de ses frontières, mais qui aujourd'hui va très loin dans la projection d'un Moyen-Orient territorialement complètement différent, politiquement différent. Mais est-ce que l'horizon aujourd'hui, c'est la démocratie, qui était le slogan affiché par les États-Unis en 2003 quand ils sont allés en Irak? Non, même pas. Donc il n'y a pas de projet politique très clair. Et pour le moment, il est évident que tous les pays qui sont situés, encore une fois, entre Israël et l'Iran, se demandent jusqu'à quel point le chaos peut se répandre.
Bruno Tertrais, ce que l'on vérifie, c'est le renforcement de la présence militaire américaine dans cette très vaste région. Il y a un porte-avions de plus qui est en route. Et en fait, si Donald Trump donne son feu vert à Benjamin Netanyahou pour véritablement frapper en particulier le site nucléaire iranien de Fordo, qui est une installation, d'après ce que j'ai compris, qui est profondément enfouie, une installation souterraine, Israël a besoin des avions furtifs américains qui sont basés à Diego Garcia, dans l'océan Indien. C'est une base britannique, en fait. Et ce sont ces avions-là qui peuvent transporter ce que les militaires appellent le Big One, donc une énorme bombe, qui, je crois, d'ailleurs, n'a jamais été testée.
Donc, oui, alors tout le monde fantasme beaucoup sur la... Oui, j'écoute.
Sur la Big One, oui.
Oui, donc, alors tout le monde fantasme beaucoup sur la destruction par les bombes américaines de cette fameuse installation enterrée souterraine de Fordo, qui avait d'ailleurs été découverte en partie par le renseignement français en 2008. Bon, je dis que c'est un peu fantasmatique parce que ça fait un petit peu penser au film Top Gun Maverick, dans lequel on imagine que la clé, c'est la destruction de cette fameuse installation d'enrichissement. Bon, évidemment, les Israéliens ne peuvent pas détruire seuls par des bombardements cette installation clé. Est-ce qu'ils sont absolument impuissants? Non, il y a d'autres moyens d'endommager cette installation. Est-ce que les Américains peuvent le faire en un seul raid? Certainement pas. Est-ce que le programme nucléaire iranien resterait non touché par... demeurerait si cette installation n'est pas touchée? Oui, donc cette installation est très importante, mais il ne faudrait pas non plus en faire le centre de tout. L'idée israélienne, c'est de détruire pièce par pièce tous les petits composants du programme, y compris les scientifiques. Juste quelques points par rapport à ce qui a été dit sur les Européens. Les Européens essayent de reprendre la main comme ils l'ont fait en 2013, où il y avait une négociation américano-iranienne, et les Européens ont essayé d'ajouter leur grain de sel. Les conditions aujourd'hui que mettent les Européens pour l'Iran, ce sont à peu près les mêmes que celles que... La position est à peu près la même que celle d'Emmanuel Macron en 2018, avec une grande différence, c'est que désormais, les Européens disent « Oui, mais alors, le droit à l'enrichissement de l'uranium, c'est terminé. » Et donc là, quelque part, ils rejoignent la position américaine parce qu'ils estiment que, de toute façon, les raids israéliens ont tout changé. Juste un mot également sur l'escalade. Sur le détroit d'Hormuz, alors là encore, c'est très fantasmatique dans chaque guerre au Moyen-Orient. Ça serait quand même, je ne dis pas que les Iraniens ne le feront pas, mais ça serait quand même pour eux se tirer une gigantesque balle dans le pied, risquer de perdre le soutien. Soutien chinois, de perdre une artère clé pour leur propre économie. Il faut quand même rappeler aussi que la marine américaine s'entraîne depuis 40 ans à rouvrir le détroit d'Hormuz un petit nombre de semaines. Donc quelque part, ça forcerait l'implication américaine. Enfin, un tout dernier mot, si vous le permettez, à propos de ce qui a été dit sur le chat et l'arme nucléaire. Il faut quand même rappeler que le chat, après avoir beaucoup hésité, avait abandonné toute ambition militaire et n'avait jamais jamais conduit d'activités secrètes à vocation militaire. Donc c'est bel et bien le régime actuel qui, après, à cause de la guerre en Irak essentiellement, avait commencé ses activités dites duales, c'est-à-dire civilo-militaire et plus tard militaire.
Martin Quincé, on en revient donc à ces divergences d'appréciation sur l'état d'avancement de l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Là, le chef d'état-major israélien s'est exprimé hier pour annoncer une guerre longue, pour prévenir ses compatriotes que davantage de souffrances seraient à affronter. Et un autre expert israélien, d'après ce que j'ai lu, estime qu'Israël a déjà réussi à faire reculer de 2 ans le seuil nucléaire iranien. Comment mesurer ce calendrier ?
Alors, la question de la guerre longue est intéressante aussi à lire à travers le débat américain, parce que tout de suite, la référence historique à l'Irak revient et c'est un point clé des critiques de l'opération israélienne aux États-Unis et des gens autour de Donald Trump qui alertent contre une attaque américaine. Je pense qu'il faut faire attention néanmoins, déjà parce que de manière générale les références historiques ne nous aident pas vraiment à comprendre, je pense, la situation actuelle. Et la deuxième chose, c'est que on est dans une situation tout à fait différente où il ne s'agit pas d'invasion, il ne s'agit pas, comme il a été dit tout à l'heure, d'une pensée de démocratisation à travers la force de cette manière. Donc je resterai un petit peu sceptique quant à cette référence de l'Irak qui est utilisée toujours et notamment aux États-Unis. Sur la capacité finalement des États-Unis à se mettre d'accord sur ce débat quant au renseignement israélien et au renseignement américain, je pense qu'il y a 2 choses à distinguer. Ce que Tulsi Gabbard a mis en avant en mars et encore en mai, ce sont des renseignements qui considèrent que l'arsenalisation et la miniaturisation de l'uranium n'a pas eu lieu, enfin des capacités nucléaires iraniennes n'a pas eu lieu, et donc l'Iran n'est pas encore au stade où une bombe est accessible. Néanmoins, il y a un consensus sur le programme d'enrichissement de cet uranium. Et c'est là où, j'en parlais tout à l'heure, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est un petit peu opposé à ce qu'a pu dire Tulsi Gabbard en disant « Ne nous trompons pas sur ce qu'il se passe en Iran ». Dire que l'Iran ne cherche pas à avoir la bombe, c'est comme dire, et là, très américain, j'utilise une métaphore sportive, c'est comme dire que le joueur de football américain est à 1 mètre de la ligne de touchdown, mais ne veut pas marquer de points.
Oui, enfin, les règles du football américain sont encore plus incompréhensibles que la stratégie des différents régimes du Moyen-Orient.
On entend depuis une semaine l'idée que le renseignement américain ne croit pas que l'Iran va vers la bombe. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et il faut comprendre la nuance des déclarations de Tulsi Gabbard et du directeur de la CIA sur ce point.
En tout cas, Martin, Benjamin Netanyahou, qui poursuit la même obsession, il est au pouvoir depuis 18 ans, et le 7 octobre, on le disait, ça a été véritablement une rupture profonde, intime, dans le psyché israélien, et dont Benjamin Netanyahou se sert, si j'ose dire, pour poursuivre son obsession, qui est partagée aussi par l'appareil militaire israélien. Mais cela veut dire aussi que cette notion de guerre préventive, qui n'existe pas dans le droit international, c'est donc une guerre illégale, comme la guerre américaine en Irak en 2003. Et cela veut dire, Martin, qu'on, plus que jamais, et on le vérifie avec l'Ukraine maintenant depuis trop longtemps, on est dans une ère de rapport de force qui, au Moyen-Orient en tout cas, évolue en faveur d'Israël à court terme.
Oui, alors l'histoire du Moyen-Orient Moyen-Orient post 7 octobre est encore à écrire. Je ne sais pas néanmoins si on peut considérer que la guerre entre Israël et l'Iran a seulement commencé vendredi dernier, dans la nuit de jeudi vendredi, comme il a été dit précédemment. Il y a déjà eu des tirs iraniens vers Israël en avril et à l'automne 2024. On a donc une série d'événements qui ont eu lieu et même si pour le moment l'escalade que l'on voit depuis 10 jours est tout à fait spécifique, je ne pense pas qu'on puisse complètement décorréler le 7 octobre et ce qu'on voit ici. Plus largement, je pense que pour la position américaine, j'insiste sur l'aspect aussi opportuniste. Ce que l'on voit depuis Washington, ce sont aussi des succès militaires et opérationnels israéliens. Ce sont une capacité à détruire les capacités iraniennes, à très fortement affaiblir le Hezbollah. Et sur la base de ces succès, la politique américaine se crée. Les États-Unis, finalement, attendent de voir aussi s'il est dans leur intérêt de s'aligner ou en tout cas de se coordonner davantage avec les Israéliens, ou si à l'inverse, il est plutôt dans leur intérêt de mettre un coup de frein. C'est pour ça qu'il y a une forme d'imprévisibilité, mais je pense qu'on oublie parfois dans le débat européen à quel point les résultats militaires guident aussi les décisions politiques que l'on voit à Washington.
Dorothée Schmidt, parmi les dirigeants de cette immense région, le plus inquiet semble être le président turc, Erdogan, qui ce matin encore accuse Israël de plonger la région dans un désastre total. C'est l'expression qu'il emploie. Il a évidemment, la Turquie a une frontière avec l'Iran et le président turc insiste aussi auprès des Européens sur le risque d'une nouvelle vague migratoire.
Oui, donc ça fait partie des effets, pas seulement possibles, mais en fait prévisibles de ces opérations en Iran dont on est en train de dire qu'on ne voit pas ni la fin, ni le résultat politique pour le moment. On a une vague migratoire qui se dessine, qui part sur toutes les frontières de l'Iran, et notamment en Turquie. Et Tayyip Erdogan a dit aux Européens qu'il ne comptait pas arrêter cette vague migratoire, alors que vous savez qu'il a fait ce fameux accord avec l'Union européenne pour traiter la question des réfugiés syriens en retenant environ 4 millions de réfugiés syriens sur son sol, que maintenant il espère relocaliser en Syrie. Donc ça, c'est un des effets potentiellement catastrophiques pour toute la région, parce que la crise des réfugiés syriens, elle a vraiment, pour moi, vraiment changé complètement le visage du Moyen-Orient et aussi le rapport de l'Union européenne à la région, en fait. Hein, on a importé les conflits du Moyen-Orient à travers cette migration dans nos systèmes domestiques, finalement. Bon, mais ce qui inquiète également beaucoup les Turcs, je pense, c'est la façon dont ils voient, eux, cette question, c'est que la Turquie, en fait, à part Israël, c'est le seul acteur militaire qui ait un peu de corps et qui soit reconnu comme une puissance effective dans la région. Or, il ne souhaite pas du tout entrer en conflit avec Israël.
Et un pilier de l'OTAN, il faut le signaler au passage.
Et c'est, c'est un membre de l'OTAN, mais alors là, je vous renvoie à un papier très intéressant qu'on a publié à l'IFRI juste en cette fin de semaine, écrit par un très bon analyste turc, qui nous dit qu'il pense que l'OTAN, en cas d'attaque contre un de ses membres, ne viendra plus à la défense des membres. C'est-à-dire que les Turcs ne croient plus à l'OTAN comme alliance militaire qui protège ses membres. Donc les Turcs sont vraiment en pleine réflexion sur l'autonomie stratégique, et cette autonomie stratégique, c'est la réflexion de toute la région. C'est aussi la réflexion des Saoudiens, parce qu'ils ne pensent pas que leur pacte de sécurité avec les Américains sera valable pour les siècles des siècles. Ils savent très bien que Trump, et ça a peut-être pas encore été évoqué dans tout ce qu'on a dit, Trump est quelqu'un qui veut faire payer la sécurité. payer la sécurité régionale. Donc ça, ça va être un des sujets avec Israël. Cette guerre, elle est extrêmement coûteuse aussi, tout simplement en termes d'équipement militaire. Et puis, il y a toutes ces retombées qui sont très importantes, sur, on l'a dit, les cours du pétrole qui, après avoir un peu monté, puis s'être stabilisé, sont en train de monter à nouveau. Les routes du pétrole, le fret en général, les Houthis, il y a une semaine, ont dit qu'ils allaient à nouveau s'attaquer à Israël et ont lancé un missile sur Jaffa. Donc les routes, le fret mondial également est sous la menace à nouveau d'énormes coûts d'assurance. Et puis à plus long terme, il y a un sujet extrêmement intéressant qui est celui des fonds souverains du Golfe, ces énormes cagnottes qui financent beaucoup d'investissements à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et c'est ça, sur ça que repose cette fameuse nouvelle idée d'un Moyen-Orient prospère entre Trump et Mohammed Ben Salman, c'est les investissements saoudiens aux États-Unis. Or, là, si on rentre dans une phase d'instabilité politique durable, il est évident que ces pays, comme ils l'ont déjà fait au moment de la crise financière de 2008, vont devoir réorienter une bonne partie de ces financements sur la stabilisation de leur propre pays. Donc, il y a vraiment des effets à moyen long terme qui sont très très larges, beaucoup plus larges que cette espèce de focale un peu étroite qu'on a aujourd'hui sur le face-à-face entre Israël et l'Iran.
Bruno Tertrais, ce face-à-face entre Israël et l'Iran, il y a deux grandes puissances qui se contentent d'être spectatrice. Il s'agit de la Russie, Vladimir Poutine qui vient de clore les rencontres économiques annuelles à Saint-Pétersbourg, a dit « Ah, Téhéran ne nous a pas demandé de coopération militaire et donc son soutien verbal est vraiment minimal ». Et puis la Chine de Xi Jinping, la Chine qui est le premier client du pétrole iranien, et ces trois pays, Iran, Chine, Russie, avaient conduit au printemps dernier des exercices militaires conjoints. Donc comment expliquer cette sorte de neutralité?
Oui, écoutez, Bruno, c'est assez simple. Tenir des exercices militaires conjoints, ça ne veut pas dire qu'on est allié. Or, ni la Chine, la Russie et l'Iran ne sont pas les alliés au sens des alliés de l'OTAN, par exemple. Ils ne se sont jamais engagés à se secourir l'un l'autre, comme l'a fait la Corée du Nord vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est pas une alliance militaire formelle. Mais ce qui se passe depuis 10 jours est extrêmement ennuyeux pour la Russie et pour la Chine. D'abord pour la Russie, parce que ça veut dire qu'elle, à court terme, elle reçoit moins de coopération iranienne dans le domaine des drones, même si les Iraniens sont déjà bien installés en Russie pour aider Moscou à en fabriquer, à l'appel. Et surtout, à moyen terme, la Russie voit le risque d'avoir un de ses grands amis dans la région, après la Syrie, le régime de la République islamique, lui échapper, tout simplement. Donc c'est véritablement un problème majeur pour la Russie. Pour la Chine, vous l'avez dit, c'est évidemment une question de liberté d'accès au pétrole qui est en cause. Donc j'allais dire que l'intérêt, tout d'abord, est essentiellement économique. Enfin, les deux ont vaguement proposé de servir de médiateur à un moment ou à un autre. Ça n'a évidemment aucune crédibilité, puisque ces deux pays qui avaient, en tout cas pour la Russie, des relations relativement bonnes avec Israël il y a une dizaine d'années, se sont tout de même très clairement, du point de vue des Israéliens, se sont désormais rangés, de l'autre côté. Donc c'est un conflit qui n'est une bonne nouvelle, entre guillemets, pour aucune des grandes puissances, en tout cas à ce stade.
Et d'ailleurs, Donald Trump, pour une fois, un peu piquant, un peu ironique par rapport à Vladimir Poutine, qu'il continue de ménager outrageusement dès qu'il s'agit de l'Ukraine. Donald Trump a fait un de ses messages sur un réseau social, comme il aime en faire plusieurs par nuit, et il a dit à Vladimir Poutine, occupe-toi plutôt de ta propre médiation, tu n'as rien à faire à intervenir entre Israël et l'Iran. Martin Quincé, Dorothée y a fait allusion, le sommet de l'OTAN a lieu à La Haye, mardi et mercredi prochain. Donald Trump a déjà insisté sur le fait que, selon lui, il n'y a aucune raison que les États-Unis, eux, consacrent 5% de leur PIB aux dépenses militaires. On peut évidemment faire valoir que c'est aussi ce qui permet à l'industrie militaire américaine d'être la plus puissante du monde. Mais bon, on a guère le temps ce matin d'entrer dans les détails, si j'ose dire. Donc, ce sommet de l'OTAN, il va se dérouler en présence de Donald Trump à La Haye, en principe, à l'ombre de cette guerre au Moyen-Orient. Martin ?
Donald. Oui, vous m'entendez ?
Oui, absolument. Oui.
Même si aujourd'hui le sujet européen pour Donald Trump est tout à fait décorrélé de ce qui se passe au Moyen-Orient, vous l'aviez souligné au début lorsqu'ils disent que les Européens n'ont aucun rôle à jouer dans la question. Donc s'il y a bien eu coordination avec Marco Rubio avant la réunion d'hier, Donald Trump lui-même ne semble pas donner beaucoup de crédit aux Européens quant à leur capacité à être des vrais acteurs dans la région. Et par ailleurs, je comprends aussi de cette manière sa réponse à Vladimir Poutine en considérant que cette question israélo-iranienne est une question que les États-Unis doivent gérer et il n'a pas besoin d'aide de la Russie. Sur le sommet de l'OTAN, les priorités sont évidemment d'abord des priorités liées à l'alliance transatlantique elle-même, l'unité de cette alliance sous l'administration Trump qui remet en question un certain nombre de la solidarité transatlantique, la question des dépenses dans la défense avec un engagement qui pourrait aller à 5% du PIB alors qu'il serait probablement divisé entre 3,5% du PIB pour la défense directement et 1,5% pour des projets d'infrastructures qui contribuent à l'effort de défense et de sécurité. Ça, ce sont des engagements qui doivent, pour les Européens, dépasser finalement les demandes de Donald Trump. Ce sont des engagements qui doivent être faits à l'aune de nos propres intérêts de sécurité et non pas pour répondre à une demande de Washington. Le troisième point, c'est que ce sommet de l'OTAN est avant tout aussi une opportunité pour parler d'Ukraine. Donc si le sujet moyen-oriental fait ombre sur la rencontre, c'est d'abord l'Ukraine qui doit être au cœur de ces discussions.
Bruno Tertrais, est-ce que l'on sait à ce stade si Volodymyr Zelensky participera ou sera pour le moins invité à La Haye la semaine prochaine ?
Alors, il a été invité aux deux précédents sommets, donc il le sera pour celui-ci. La question est de savoir, à mon sens, quelle va être surtout l'attitude personnelle de Donald Trump pendant ce sommet. Et tous les Européens auront les yeux rivés aux moindres faits et gestes du président américain. C'est en cela que c'est un sommet important. Bien sûr, il va être parasité d'une certaine manière par le Moyen-Orient, mais les Européens sont, pour la plupart d'entre eux, notamment ceux du centre et de l'Est, essentiellement, et c'est bien normal, concernés par ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que Donald Trump va continuer à avoir une attitude relativement raisonnable vis-à-vis de ses alliés, à savoir si vous dépensez plus, je resterai, moi, l'Amérique, un membre, le leader de l'OTAN, même à condition que vous en fassiez plus pour votre propre défense et que nous soyons, nous, désormais, Américains, un peu plus en deuxième ligne. Si c'est cela, ça se passera bien. Le problème, c'est que Donald Trump, il est, on le sait, capable de tout. Et il peut aussi bien quitter la table au bout de quelques heures et dire « je rentre chez moi, je ne vous protège plus ». C'est ça le problème. Je ne crois pas que ce soit le scénario le plus probable. Mais avec Donald Trump, on est obligé de prendre en compte ce scénario qui serait véritablement un choc dramatique pour tous les pays européens.
Mais cela veut dire aussi, Bruno, que ce fameux système des deux semaines, deux semaines pour tous les sujets que le président américain se flatte de régler, le sommet de l'OTAN est inclus, si j'ose dire, dans ce calendrier des deux semaines.
Oui, mais en même temps, le sort de l'OTAN n'est pas, ne dépend pas mécaniquement de ce qui va se passer au Moyen-Orient. Elle ne dépend pas mécaniquement de l'implication ou non directe des États-Unis dans les opérations offensives sur l'Iran. Moi, je crois qu'il y a une autre échéance dont on parle peu, mais qui est, à mon sens, tout aussi importante pour les Européens. C'est l'autre deadline, l'autre date butoir, qui est celle du 8 juillet pour la conclusion d'un deal de négociation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. États-Unis. Et quelque part, je crois que ce qui se passe dans le domaine de la défense, encore une fois, du fait des incertitudes sur l'attitude personnelle de Donald Trump, c'est cela aussi qui peut impacter sur l'avenir des relations transatlantiques. On est encore en discussion pour un règlement du différend commercial ou pour une tentative de deal avec Donald Trump sur les questions commerciales. Je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste sur ce sujet. Mais vous voyez, il y a aussi un autre agenda, qui est un agenda européen. Et celui-ci, il ne s'arrête pas au sommet de l'OTAN. Il dure jusqu'à début juillet. Donc la séquence est particulièrement complexe.
La séquence est complexe, Bruno, et on se demande toujours, et c'est évidemment là aussi, c'est une plaisanterie, ce sont des ricanements sur les réseaux sociaux avec toutes sortes de caricatures de Donald Trump en poulet. Néanmoins, sur le Moyen-Orient comme sur l'OTAN, est-ce qu'on va vivre le moment tacos ? C'est-à-dire,
voilà, Trump
expliquez-nous ce que c'est.
Alors, le taco, bon, qui est évidemment une spécialité Tex-Mex, de culinaire, mais c'est aussi Trump always chickens out, c'est-à-dire, on se moque de plus en plus de Donald Trump, et à mon avis, il ne doit pas aimer ça, pour dire, en gros, eh bien, Trump a fini toujours par se défiler. Alors, je crois que ce n'est pas toujours vrai, mais je pense aussi que ça vient à ses oreilles, ça va commencer à l'agacer, et que, bien, il ne se défile pas toujours, mais effectivement, il pourrait très bien décider, finalement, je me lave les mains du Moyen-Orient, je me lave les mains de l'Europe, cette attitude est toujours possible. J'en doute, mais c'est un scénario effectivement possible.
Et toute dernière question à vous, Bruno. Est-ce qu'il peut dire aux Européens à La Haye mardi et mercredi prochain, en supposant qu'il reste les deux jours, venez nous aider à soutenir Israël au Moyen-Orient ? Est-ce qu'il peut nier les enjeux ?
Alors, je pense qu'il peut lier les enjeux, mais ça serait surtout de manière négative, à savoir, ne vous mêlez pas de ces affaires-là, notamment message à Emmanuel Macron et aux autres grands leaders européens. Il ne demandera pas d'aide militaire parce que ça serait une complication plutôt qu'un atout pour lui. Donc, je pense que l'aide qu'il demanderait dans ce scénario est essentiellement politique, à mon sens. Il ne demandera pas d'aide militaire. Il ne dira pas le Moyen-Orient, c'est plus votre problème d'Européen que nous, notre problème américain.
Et donc, il dira, le Moyen-Orient, je suis le maître du monde et donc je vais, moi, régler le problème du Moyen-Orient.
On en revient au cœur de la discussion qu'on a eue, à savoir qu'il a deux attitudes possibles, qui sont toutes les deux possibles pour un Donald Trump, à savoir soit je m'en lave les mains, je ne suis pas un homme de guerre, Israël fait ce qu'il a à faire et il satisfait sa base, la base MAGA, soit au contraire je veux être le roi du monde, celui qui a définitivement, entre guillemets, réglé le problème iranien et donc je m'implique totalement, ce qui le rendrait peut-être populaire, non pas auprès de sa base, pas du tout, mais auprès de la majorité de l'électorat républicain. Et on ne sait pas de quel côté la pièce de monnaie va tomber.
Et comme je le rappelais, au début de cette conversation, Donald Trump dit « Personne ne sait ce que je vais décider. » Et peut-être lui non plus, ce qui a été en fait évoqué dès le début de cette conversation. Eh bien, écoutez, merci à vous quatre. Je rappelle quand même que dans la prison d'Evin, près de Téhéran, il y a toujours depuis 3 ans 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Et bien évidemment, on s'inquiète sur leur sort au moment où Téhéran continue d'être bombardé par l'aviation israélienne. Donc, merci à vous, Dorothée. Merci pour votre contribution excellente au rapport annuel de l'IFRI, donc le Ramsès 2025 entre puissance et impuissance, avec une analyse particulièrement fine concernant les anticipations dans cette partie. Bon, Bruno Tertrais, vous avez publié plusieurs ouvrages. La question israélienne, c'était aux éditions de l'Observatoire en février de cette année, et une réédition de La guerre des mondes en poche chez Alpha. Martin Cancé, vous signez plusieurs papiers sur le site du German Marshall Fund, dont un rapport en anglais qui sera publié la semaine prochaine sur la manière de relancer les relations transatlantiques. Clément Terme, Vous allez publier donc au mois d'août au Cavalier Bleu, idées reçues sur l'Iran. Et vous aviez publié aussi sur les relations Téhéran-Washington aux éditions Hémisphère en septembre dernier. Voilà, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, bien sûr, Anthony Thomasson à la technique, Laura Dutèche-Pérez et Patricia Miura de la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et il est temps maintenant de passer l'antenne à Marina Carrère d'Encausse pour ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.